Thank you. et sous mon âme en vos analogies. Les pensées d'une princesse qui a faim, l'ennui d'un matelot dans le désert, une musique de cuivre aux fenêtres des incurables. Allez aux angles les plus tièdes. On dirait une femme évanouie un jour de moisson. Il y a des postillons dans la cour de l'hospice. Au loin, passe un chasseur d'élan devenu infirmier. Examinez au clair de lune. Oh, rien n'y est à sa place. On dirait une folle devant les juges. Un navire de guerre à pleine voile sur un canal. Des oiseaux de nuit sur des lys. Un glas vers midi, là-bas sous ses cloches. Une étape de malade dans la prairie. Une odeur d'éther un jour de soleil. Mon Dieu, quand aurons-nous la pluie et la neige et le vent dans la serre ?
Thank you.
c'est l'élément dans lequel se forment les grandes choses, pour qu'enfin elles puissent, parfaites et majestueuses, à la lumière de la vie qu'elles vont dominer, émerger. La parole est trop souvent, non comme le disait le français, l'art de cacher la pensée, mais l'art d'étouffer et de suspendre celle-ci, en sorte qu'il n'en reste plus à cacher. La parole est grande, elle aussi, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus grand. Comme l'affirme l'inscription suisse, la parole est d'argent et le silence est d'or, ou comme il vaudrait mieux le dire, la parole est du temps, le silence de l'éternité. Les abeilles ne travaillent que dans l'obscurité, la pensée ne travaille que dans le silence, et la vertu dans le secret. Il ne faut pas croire que la parole serve jamais aux communications véritables entre les êtres. Les lèvres ou la langue peuvent représenter l'âme de la même manière qu'un chiffre ou un numéro d'ordre représente une peinture de même ligne, par exemple. Mais dès que nous avons vraiment quelque chose à nous dire, nous sommes obligés de nous taire. Et si, dans ces moments, nous résistons aux ordres invisibles et pressants du silence, nous faisons une perte éternelle que les plus grands trésors de la sagesse humaine ne pourront réparer. Car nous avons perdu l'occasion d'écouter une autre âme et de donner un instant d'existence à la nôtre. Et il y a bien des vies où de telles occasions ne se présentent pas deux fois. être plein de surprises redoutables, un tombeau par exemple. Il y a autour des abeilles une légende de menaces et de périls. Il y a le souvenir énervé de ces piqûres qui provoquent une douleur si spéciale qu'on ne sait trop à quoi la comparer. Une aridité fulgurante, dirait-on, une sorte de flamme du désert qui se répand dans le membre blessé. Comme si nos filles du soleil avaient extrait des rayons irrités de leur père un venin éclatant pour défendre plus efficacement les trésors de douceur qu'elles tirent de ces heures bienfaisantes. Il est vrai, couverte sans précaution par quelqu'un qui ne connaît ni ne respecte le caractère et les mœurs de ses habitantes, la ruche se transforme à l'instant en un buisson ardent de colère et d'héroïsme. Mais rien ne s'acquiert plus vite que la petite habileté nécessaire pour la manier impunément. Il suffit d'un peu de fumée projetée à propos, de beaucoup de sang-froid et de douceur, et les ouvrières, bien armées, se laissent dépouiller sans penser à tirer l'aiguillon. Elles ne reconnaissent pas leur maître, comme on l'a soutenu, elles ne craignent pas l'homme, mais à l'odeur de la fumée, aux gestes lents qui parcourent leur demeure sans les menacer, elles s'imaginent que ce n'est pas d'une attaque ou d'un grand ennemi contre lequel il soit possible de se défendre, mais d'une force ou d'une catastrophe naturelle à laquelle il convient de se soumettre. Au lieu de lutter vainement et pleine d'une prévoyance qui se trompe parce qu'elle regarde trop loin, elles veulent du moins sauver l'avenir et se jettent sur les réserves de miel pour y puiser et pour y cacher, en elles-mêmes, de quoi fonder ailleurs et n'importe où, une cité nouvelle si l'ancienne est détruite ou qu'elle soit forcée de l'abandonner.